Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Robin de Locksley, par la mort Dieu, son nom commence à m'échauffer les oreilles. Quel est son dernier outrage?
Oh, il a tout bonnement tué un cerf royal dans la forêt de Sherwood.
Et vous ne l'avez pas pris?
Sa capture est un problème difficile, monseigneur.
Un Saxon vous nargue?
C'est un brigand qui fait parler de lui, milady.
Oui, un impudent coquin, un risque-tout qui court la province et qui soulève les Saxons contre l'autorité. Mais qui a l'insolence de se poser en protecteur du pauvre peuple opprimé.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale sortie bouquin avec Bloody Glove de Robert Slasher, paru dans la collection Compact Horror chez Faute de Frappe Édition. On parlera également de Les Expressions Françaises aux éditions Les Lettres Mouchetées, écrit par Marie-Françoise Ibovy et illustré par Jussie Ensana et Patrick Caluta. Nous causerons également de 23 films et demi de Aldo Tassone, paru chez Carlotta Film, de Fugue Opus 36 d'Éric Rondepierre, Mythologie de Déborah Kerr d'Olivier Murdry, Steven Soderbergh volume 1, Les années analogiques de Christophe Chabert, Frédéric Mercier. Tout ça, c'est chez Marest Éditeur. Et puis, nous abordons plus longuement Robin des Bois de Sherwood à Hollywood, un livre coécrit par William Blanc, Justine Breton et Jonathan Fruoco, un livre paru aux éditions Libertalia. Nous l'aborderons donc plus longuement avec l'un de ses co-auteurs, William Blanc. L'équipe de Culture Prohibée remercie Séverine Danflou, Charlotte Dugrand, Lucie Mottier, Muriel Troadec, William Blanc, Marc Falvo et Pierre-Julien Marest pour leur aide sur cette émission. Pour causer sortie bouquin, je suis aujourd'hui accompagné de Thomas Roland, que l'on surnomme le loup-garou picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Bonjour Thomas.
Bonjour GG et bien évidemment bonjour à toutes.
Je vais vous parler de Bloody Glove de Robert Slasher, qui est le dernier volume en date paru dans la collection Compact Horror en 2024, donc l'année dernière, chez Faute de Frappe Édition. Alors, on a bien une petite idée si on va traîner sur son site, mais je vais garder le mystère sur ce que nous réserve Marc Falvo, donc l'éditeur, pour 2025. Alors, cette version de Bloody Glove est préfacée par Jack Sholder. Ah oui, Jack Sholder, le réalisateur de Hidden, mais surtout le réalisateur du coming out le plus gore de l'histoire du 7e art, avec une scène culte de La Revanche de Freddy. Ce livre de l'énigmatique Robert Slasher est, entre autres, un hommage au personnage créé par Wes Craven, mais pas que. Nous sommes ici dans la tête de Frédéric Parmentier, alors psychopathe dément qui, au-delà de la mort, tailla des viscères et massacre toutes les personnes qui lui ont pourri la vie. Son arme, c'est simple, je pense que vous l'avez deviné, une reproduction du gant du tueur d'Elm Street. Et oui, c'est ce gant-là avec ses grandes griffes là, qui font très mal. Je fais bien les griffes. Alors, l'écriture est efficace, elle est concise, elle fait s'entrechoquer. Ça, c'est plus marrant quand même au niveau des références, parce qu'on est dans la tête de ce type. Gainsbourg, Gainsbar, évidemment, le slasher. Et puis plein d'autres références singulièrement cinéphiles quand même, que les amateurs de littérature gore vont facilement déceler. Et d'ailleurs, les amateurs de littérature gore, il ne faut pas qu'ils hésitent à plonger dans cette balade sanglante où l'auteur nous fait entrer dans la tête d'un psycho-killer bien vénère quand même, qui malgré tout a vécu bien des malheurs, le pauvre. Alors sans nous le rendre sympathique non plus, évidemment, mais Robert Slasher arrive à nous faire ressentir une pointe d'empathie pour ce fêlé du ciboulot qui est Frédéric Parmentier-Kruger. Bon, on peut résumer à Fred Kruger, quoi, voilà, si on réfléchit un petit peu. Et croyez-moi, eh ben, au départ, hein, c'était loin d'être gagné de nous rendre un peu sympathique ce personnage. Donc on vous recommande chaudement, sinon on vous envoie Fred Kruger, attention, hein, ce Bloody Glove de Robert Slasher, qui est donc paru dans la collection Compact Horror chez Faute de Frappe. Je vois que Thomas me regarde avec insistance. Alors je pense, alors j'allais faire un bel enchaînement pour qu'il me parle du livre dont il veut causer, Les expressions françaises, paru aux éditions Les Lettres Mouchetées, mais je vois qu'il a envie de dire une bêtise.
Le fait que le personnage s'appelle Parmentier, c'est parce qu'il fait du hachis.
C'est une pointe d'humour, mais certainement pas involontaire lorsque on connaît un peu comment dire, le sens de l'ironie très particulier de ce Robert Slasher dont je ne révélerai pas la véritable identité par peur d'être poursuivi dans mes cauchemars. Bon, bah Thomas, tu vas quand même nous causer du bouquin que tu as ramené dans le studio.
Là, on va déjà complètement changer de genre. Déjà, on va dans une autre contrée, hein, parce qu'avec la maison d'édition Les Lettres Mouchetées, nous allons faire un tour du côté de la République du Congo, le pays d'origine d'Emmanuel Dongala et d'Alain Mabankou, hein, ni plus ni moins. Et plus précisément, nous allons nous rendre à Pointe-Noire, où a été fondée cette maison d'édition qui publie de la littérature générale, des essais, mais aussi des romans policiers, dont Le cadavre du fleuve, signé Marie-Françoise Ibovy, et dont nous n'allons pas parler aujourd'hui. Mais Marie-Françoise Ibovy, d'abord romancière, vient de se lancer dans l'écriture de bandes dessinées avec Les expressions françaises, avec un Z. Oui, l'humour et un ton quelque peu décalé sont à l'honneur de cet ouvrage qui revisite des expressions françaises qui font partie intégrante de notre quotidien. Avec la complicité de Justine Sana et Patrick Kaloutaka, Marie-Françoise Ibovy s'amuse à donner vie à ces expressions imagées. Avec le choix de proposer une petite histoire par page qui illustre l'expression abordée, l'album se veut plutôt didactique et à l'adresse plutôt d'un jeune public. Avec son découpage lisible et ses couleurs soignées, cette bande dessinée qui se veut aussi amusante qu'instructive témoigne de la vitalité de ce support et de l'impact qu'elle peut avoir auprès d'un large public en République du Congo. Elle impose également les deux dessinateurs comme des artistes à suivre. Malheureusement, l'ouvrage ne présente pas de biographie des auteurs dont j'aurais aimé connaître le parcours et les œuvres. Après quelques recherches, j'ai pu voir que ni Justine Sana, qui enseigne les arts plastiques à Pointe-Noire, ni Patrick Kaloutaka, qui dirige un studio de création audiovisuelle, ne sont pourtant des novices. L'album, en se concluant par un petit quiz sur la signification d'autres expressions françaises, s'avère décidément idéal pour un public jeune et lui permet d'apprendre tout en s'amusant. Donc, Les expressions françaises, écrites par Marie-Françoise Ibovy et illustrées par Justine Sana et Patrick Kaloutaka, est disponible aux éditions Les Lettres Mouchetées.
Mon cher Thomas, moi je suis venu aussi en studio avec des livres pour cinéphiles quand même, hein, et je vais vous parler de Fellini 23 et demi. Alors, un livre, certes, pour les cinéphiles, mais pas que. D'ailleurs, on peut dire que Federico Fellini est quand même loin d'être un réalisateur classique, hein, il suffit de voir certains de ses films complètement barrés. Et là, il se voit gratifié, Federico Fellini, par Carlotta Film, hein, donc d'une traduction par Valentina Forte d'un livre mythique signé Aldo Tassone qui s'appelle Fellini 23 et demi. C'est 1400 pages sur le mythique réalisateur de la Dolce Vita, mais pas que, hein. D'ailleurs, j'avoue à titre personnel que je préfère les Vitelloni à la Dolce Vita, mais après c'est une histoire de goût. Fellini est un si grand metteur en scène que on a chacun nos petits préférés du maître italien, du maestro. Alors là, ici, Aldo Tassone, il faut savoir que lui, il a fait connaissance en fait avec, enfin à titre personnel, hein, quand Fellini tournait Satyricon, il a fait connaissance grâce au scénariste Ennio Flaiano avec Fellini, puis il a sympathisé. Et ce qui fait qu'il est accompagné, il était en fait invité permanent à Cinecittà grâce à Fellini, et il a accompagné Fellini sur l'ensemble de ses tournages et tout, sur ses 23 films et demi, comme il le dit l'autre, d'où le titre Fellini 23 et demi. Et il décortique donc toute la filmographie de Fellini, de A à Z. Et afin de renforcer l'immersion du lecteur de cette Bible, parce que c'en est une, hein, Tassonnet nous livre aussi tout un panégyrique d'un ensemble de critiques parues à l'époque de sortie des films. Donc on a l'accueil critique qui a été réservé aux films de Fellini à l'époque où ils sont sortis. On a aussi, il a rajouté plein de choses, il fait des vraies fiches de synthèse en fait où il y a des anecdotes. Et on peut aussi compulser les synopsis pour avoir des infos, comprendre des choses en fait. Et... C'est un condensé parfait pour découvrir l'œuvre de... Alors, c'est 1400 pages, mais l'œuvre est tellement riche. C'est un condensé parfait pour découvrir l'œuvre de Fellini. Ça s'appelle Fellini 23,5. C'est un livre de Aldo Tassone et c'est disponible chez Carlotta Film. Écoutez Culture Prohibée. Toujours côté cinéphilie, nous allons maintenant nous pencher sur les dernières parutions d'un des éditeurs à titre personnel, moi je trouve l'un des plus singuliers et passionnants qui soit dans notre bel hexagone lorsqu'il s'agit d'aborder le cinéma. Je pense que vous avez deviné, mais je vais vous parler de Marest Éditeur, parce que j'avoue, les livres publiés par cette maison ont, je sais pas, un petit truc en plus, un supplément d'âme, c'est pas sans m'émouvoir en fait. Et là, je vais vous parler de trois ouvrages. Alors certains vont rentrer vraiment dans ce qu'on appelle la zone grise de la cinéphilie, puis qui est encore plus dans la zone grise, parce qu'il est à la fois dans la réalité, dans le documentaire, dans la fiction, mais il a aussi un petit lien par le biais d'un des personnages du film avec le cinéma, en particulier le surréalisme. Alors, le premier de ces livres dont je vais vous parler, c'est Mythologie de Deborah Kerr, et c'est ce que l'on appelle parfois hâtivement un essai. Mais pour moi, je trouve que c'est une déclaration d'amour à une actrice unique, hein, qui ne fit pas que faire chavirer les cœurs, hein, des cinéphiles, mais qui les fascina. Qui a pu la voir dans Le Narcisse Noir de Michael Powell, Emmerich Pressburger, sera poursuivi à jamais par son interprétation d'une religieuse terrassée par le désir. Alors, l'auteur nous fait voyager via 50 stations ferroviaires, en fait, dans la filmographie de cette grande dame du cinéma, de Michael Powell à John Huston, en passant par Jack Clayton. Excusez du peu, mais c'est tout un pan de l'histoire du cinéma qui nous est conté, celui où les visages imprimaient la pellicule. Hein, la deuxième partie du livre, Apparition, est une ode amoureuse à une actrice unique dont chaque mouvement, chaque regard, chaque posture sème le trouble. Et puis la troisième partie, Faille et pouvoir, et va plus loin dans l'analytique et surtout dans l'analyse de ce que l'auteur appelle les films de Deborah Kerr. Car oui, quand on est une telle actrice, on peut aisément s'approprier la maternité d'un film. Et nous, on ne peut que vous conseiller abondamment la lecture de Mythologie de Deborah Kerr d'Olivier Mudry, donc paru aux éditions Marest Éditeur. Toujours chez Marest Éditeur, toujours côté essai sur le cinéma, nous vous proposons Steven Soderbergh, volume 1, Les années analogiques, de Christophe Chabert et Frédéric Mercier, que les habitués du Cercle, hein, par exemple, sur Canal+, connaissent bien. Et comme son titre l'indique, cette monographie est consacrée à la première partie de carrière de Steven Soderbergh. Donc elle couvre la période de 1986 à 2008. Alors, c'est un réalisateur qui fait partie du cycle très fermé des Palmes d'Or pour leur premier long métrage. En l'occurrence, là, pour Soderbergh, c'était Sexe, mensonge et vidéo, hein, et qui date de la fin des années 80. Et l'idée de cet ouvrage est venue aux auteurs, en fait, pendant l'épidémie de Covid-19. Tant, en fait, Contagion, tourné 10 ans avant l'épidémie planétaire, était un film prémonitoire. D'ailleurs, qui a été beaucoup, à l'époque, téléchargé sur les plateformes, beaucoup vu, hein, c'était le film le plus regardé. Ce qui n'empêche pas D'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'ils ont écrit le bouquin. Ce qui n'empêche pas qu'en 2020, pour trouver Soderbergh, au moment du Covid, bah, il fallait aller le chercher sur des autoproductions, pour des plateformes de VOD. En fait, on ne le voyait plus, plus au cinéma. Alors, les auteurs vont mener leur enquête, où est Steven Soderbergh, hein, pour partir à la rencontre du réalisateur via une analyse de sa filmographie. La première partie de l'ouvrage compte la période qui va de Sexe mensonge à vidéo jusqu'à Schizopolis. Là, on traite d'un cinéaste qui est en quête de lui-même. Hein, c'est écrit comme tel dans le livre. Hein. Mais le livre n'est pas qu'une suite d'analyses, en fait. Loin de là, c'est aussi de la biographie passionnante d'un cinéaste qui est né en 63 à Atlanta, en Géorgie. On se familiarise avec sa cinéphilie, son environnement, et petit à petit, à travers les premiers films de Soderbergh, les auteurs décrivent la naissance d'un style, d'un ton, d'un cinéaste pluriel. Arrive ensuite la deuxième partie dans laquelle figure, moi, mon film préféré de Soderbergh, c'est L'Anglais. Polar génial avec Terence Stamp que j'adore vraiment. Alors cette deuxième partie, elle est intitulée Cutty and Funky, la surface mise en perspective, et effectivement elle va de Hors d'atteinte à Ocean's Eleven, et les auteurs là ils décortiquent le style Soderbergh et une certaine idée, on peut dire, de la coolitude, mais empreinte de spleen un petit peu, voilà, c'est une mélancolie, une singularité qui sont au cœur aussi de la troisième partie de l'ouvrage, partie qui voit l'homme orchestre, donc qui est quand même producteur, chef opérateur, monteur, réalisateur, puis on sait qu'il met beaucoup le nez dans les scénarios aussi, qui le voit se tourner vers le numérique, un outil qui va lui permettre de garder son intégrité, un peu à la manière de Michael Mann aussi, hein, qui va beaucoup se pencher vers le numérique, et surtout, alors là, contrairement à Michael Mann, lui, ça va lui permettre de garder un rythme de production échevelé, parce qu'il a une créativité folle. C'est qui lui est arrivé de signer deux films en une année, hein, Soderbergh. Et donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'on a ? On n'a qu'une envie, c'est de lire le volume 2, parce que du coup, on s'arrête à un moment charnière, et on a très envie de lire la suite. Donc ça s'appelle Steven Soderbergh, Les années analogiques. C'est le volume 1 donc, d'une monographie signée Christophe Chabert et Frédéric Mercier, disponible chez Marest Éditeur. Et on termine cette fournée Marest Éditeur par une fiction singulière qui s'appelle Fugue Opus 36. C'est un livre d'Éric Rondepierre qui malheureusement vient de nous quitter en 2024. Alors Éric Rondepierre, c'était un artiste vraiment multifacette. Alors, il a été diplômé des Beaux-Arts de Paris, il est agrégé d'art plastique, docteur en esthétique, professeur associé à la Sorbonne pendant 20 ans. Il a été comédien, peintre, photographe, écrivain. Et depuis les années 90, il a une réflexion sur l'image, en fait, qui passe par l'archive, et on peut retrouver nombre de ses photos dans plein de collections européennes, américaines, voilà. Donc c'est une vraie légende, en fait, dans ce milieu. Et puis il est l'auteur de plein de livres, que ce soit des choses plus fictionnelles, autobiographiques, en relation avec la photo, des livres d'entretien, des essais critiques. Il a fait énormément de choses, et il nous quitte avec cet ouvrage, donc qui s'appelle Fugue Opus 36, dans lequel il évoque un fait divers aujourd'hui oublié, mais qui défraya la chronique en son temps. L'évasion le 26 septembre 1936 dans la France Front Pop de 17 jeunes filles de ce que l'on appelait pudiquement une maison de redressement. Maison de redressement sise à proximité de Paris. Alors, à travers l'évocation d'une narratrice, Evelyne Forest, qui a existé, hein, comédienne et metteuse en scène, Éric Rondepierre nous raconte le destin de trois des personnages de cette révolte qui mit en exergue la dureté infâme de la justice pour mineurs. Alors, loin de livrer un récit 100% réel, Fugue Opus 36 divague, telle ses fuyardes, s'égare parfois et frappe par son humanité, sa grande humanité, de celle qui redonne fierté aux oubliés, de celle qui fait, en fait, ce qu'on appelle l'histoire sociale. Et parmi les protagonistes de Fugue Opus 36, il y a Marcel Génia. Alors, c'est une grande comédienne, hein, qui est aujourd'hui tombée dans l'oubli. Hein. Il y a le surréaliste André Breton, sur lequel l'auteur arrive à nous surprendre, armé d'une prose politiquement poétique, si j'ose m'exprimer ainsi. Et enfin, destinée la plus tragique, il y a une certaine Germaine. Alors Germaine, Kevlin Forest, parce qu'Evelyne Forest, elle a eu une vie aussi incroyable, hein, qui a été d'ailleurs déportée de Compiègne à Buchenwald. Parce que nous, on enregistre cette émission à Compiègne. Hein. Il y a d'ailleurs un mémorial de la déportation à visiter absolument quand on vient à Compiègne. Et elle a été déportée de cet endroit vers Buchenwald. Elle a longtemps cherché, en fait, Germaine, qui avait disparu, Evelyne Forest. Et Evelyne Forest ne l'a pas retrouvée avant d'apprendre en 1948, après avoir survécu à Buchenwald, que, en fait, Cette Germaine, elle, si elle n'avait pas connu la déportation et les horreurs qu'avait connues la narratrice, elle était morte d'inanition en 1943 dans un mouroir immonde que l'on appelait à l'époque asile psychiatrique. Mais enfin, on sait à quoi ressemblaient les asiles psychiatriques en 1943. De ces destinées tragiques, Éric Rondepierre tire un livre lumineux qui se termine par ces mots sublimes. Avant de basculer dans la nuit, je sentais ta présence derrière les vitres, comme celle d'un oiseau ou d'un papillon. Il me semblait, à cet instant précis, que je te retrouverais plus tard, n'importe où, quelque part. Et c'était vrai. Le livre s'appelle Fugue Opus 36, il est signé Éric Rondepierre, il est disponible chez Marest Éditeur, et on vous le recommande chaudement.
On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, valeur d'un fort. Au fond des criques, j'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire, je me suis pas fait prier. J'étais gant de crin, geyser. Pour un peu, pour un dos, je prolongeais l'histoire d'eau. La nuit, je mange, je prends le train à travers la plaine. La nuit, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. D'où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. L'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'acunque. La nuit je mange, je prends des trains. À travers la plaine, la nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique. Valeur d'un fort au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale sortie bouquin.
T'étais pas né. La nuit je mange, je prends le train à travers la plaine. La nuit je mange, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho.
la deuxième partie de cette émission, on va maintenant entrer en contact avec William Blanc. Alors William Blanc, il est co-auteur d'un livre qui s'appelle « Robin des Bois, de Sherwood à Hollywood ». Il le co-signe avec Justine Breton et Jonathan Fruoco. C'est paru aux éditions Libertalia. Et ils y défrichent le mythe Robin des Bois, évidemment. Et puis, tout ce que ce mythe a apporté à la culture populaire. Mais bon, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur ce livre qui est indispensable, hein, qui est un livre passionnant. Donc William Blanc, tout de suite au micro de Culture Prohibée.
L'idée est venue de Jonathan, en fait. Donc moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un truc sur Robin, mais bon... J'ai pas eu l'occasion et l'idée est venue de Jonathan et puis de Justine en fait. Hein. Et Jonathan, il a travaillé notamment vu que c'est un spécialiste de l'anglais médiéval. C'est le premier à avoir traduit les premiers textes consacrés à Robin des Bois et qui ont été qui sont apparus au 15e siècle en fait. Hein. Donc même s'il y en a eu un petit peu avant au 14e, hein, mais donc les premières ballades consacrées à Robin des Bois. Et il s'est dit que ça pourrait être bien de faire un gros ouvrage. Un ouvrage conséquent sur les évolutions du mythe de Robin des Bois, tout au long de l'histoire, donc du XIVe siècle, hein, de la fin du XIVe siècle jusqu'à aujourd'hui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'orée de Barnsdale?
En fait, c'est assez intéressant parce que ça se vérifie aussi pour le mythe arthurien, c'est que l'image, en tout cas l'image canonique qu'on a du mythe aujourd'hui, donc Robin qui va aider le roi Richard Cœur de Lion depuis la forêt de Sherwood, qui combat le méchant prince Jean, ça s'est fait dans la durée en fait, hein, ça s'est établi peu à peu dans la durée, tout comme les autres personnages, hein, par exemple Marianne qui est apparu en fait hein, au XVIe siècle, mais au début, dans les premiers textes, Robin, il est décrit en effet comme un bandit, donc comme un archer, ça c'est déjà là en fait, hein. Mais il agit pas spécialement à Sherwood. Le roi qui est cité dans les ballades en fait, notamment dans la première ballade. C'est pas forcément le roi Richard, c'est même on ne sait pas quel roi c'est. Et puis c'est pas le lieu précis de ses aventures et plutôt en effet la forêt de Barnsdale qui est un peu différente que celle de Sherwood. Puis petit à petit en fait on va se positionner en fait hein, le mythe va donc associer Robin à la forêt de Sherwood. Mais au début encore une fois hein, c'est un petit peu différent. Les premiers textes proposent en fait une vision un peu différente de Robin. C'est pareil, il n'y a pas de frère Tuck au début, hein. Il y a Petit Jean qui est là en fait, et donc tout ça pour dire qu'en fait un mythe, une légende comme ça, ça se construit au fil du temps en fait, hein. Il y a petit à petit des éléments qui se rajoutent, d'autres qui sont enlevés, et puis en fonction des époques, on va rajouter des éléments pour plaire à un public différent, pour faire écho avec à l'époque dans laquelle on écrit, dans laquelle on tourne le film, voilà.
D'ailleurs, contrairement au mythe arthurien, par exemple, même à la plupart de tes sujets d'études, alors là, vous êtes plusieurs hein, à travailler sur l'ouvrage, mais pour une fois, là, vous vous attaquez à un personnage qui a réellement existé. C'est un vrai personnage historique.
Parce que le truc, c'est que c'est un personnage littéraire. C'est comme Arthur, en fait. Hein, donc, c'est un personnage littéraire. Peut-être vaguement certains bandits qui auraient pu servir d'inspiration à Robin des Bois, mais en fait non, on est vraiment dans de la création littéraire, dans la création d'un personnage qui fait écho à des revendications, ou en tout cas à un désir de justice au sein des classes populaires anglaises du 14e, 15e siècle.
D'accord, et t'expliques à un moment, vous parlez aussi dans l'ouvrage, hein, que justement, parmi, enfin, pas ses sources, mais on va dire, en tout cas, il y aurait, dans le même état d'esprit de ce que tu disais à l'instant, un équivalent à Robin des Bois en France, et derrière ça se cacherait un certain Augustin Thierry. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? C'est quelque chose qui vient plus tard dans le livre, mais c'est quelque chose d'assez... Mais c'est saisissant quand même, je trouve assez...
Ouais. Alors, c'est assez marrant parce que, en fait, cette histoire-là. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le mythe de Robin des Bois, pendant très longtemps, il est resté confiné à l'Angleterre, en fait, hein, et à la culture anglophone. Il va y avoir, en fait, logiquement, une exportation du mythe, notamment dans les colonies en Amérique, en fait, hein, puis après, ce qui va devenir les États-Unis, mais parce que c'est une population anglaise qui habite là-bas. Mais en France, c'est pas le cas, en fait. Hein, donc, en France, Robin des Bois, on ne connaît pas, en fait, hein, donc, pendant très longtemps. Et on va le connaître à partir de la fin, du début du XIXe siècle. Pourquoi ? Eh bien, tout bêtement, parce qu'à la fin du XVIIIe siècle, des révolutionnaires anglais, en fait, hein, notamment un auteur qui s'appelle Joseph Ritson, va dire, en gros, que Robin des Bois, c'est l'incarnation du peuple révolté. Et quelque part, en fait, hein, c'est le peuple saxon, hein, donc étouffé par les nobles normands, en fait. Hein, donc quelque part, en fait, hein, donc redécouvrir ces ballades, c'est une manière, hein, parce que Ritson est un des premiers à publier les premiers textes de Robin des Bois, les ballades de Robin des Bois médiévales, donc à les rééditer, donc à les imprimer. Et Ritson va dire, redécouvrir ces ballades, c'est une manière, en fait, à quelque part, pour le peuple anglais, hein, et quand il pense au peuple anglais, il pense évidemment au peuple du XVIIIe siècle, hein, donc de son époque, hein, au peuple des années 1790, c'est une manière, donc, pour le peuple anglais de retrouver sa fierté, de retrouver, en fait, une forme d'inspiration pour se libérer. Et... Augustin Thierry, qui est un historien français, mais plutôt, en fait... libéral, en fait, hein, donc au sens de l'époque, hein, il écrit dans les années 1820, donc critique de la monarchie absolue, critique de la Restauration, Augustin Thierry va faire strictement la même chose, il va dire, il va écrire des pages sur Robin des Bois en disant en gros que Robin des Bois, c'est l'incarnation du peuple anglais en lutte pour sa liberté, et voilà. Et bon, c'est pas nouveau pour l'époque, hein, parce qu'au XVIIIe siècle en France, on dit un peu la même chose, hein, des Gaulois par rapport aux Francs, en fait, hein, donc les Gaulois opprimés qu'on parle les Francs, par les aristocrates francs, mais ça a beaucoup influencé l'image de Robin des Bois, ce qui fait qu'en France, comme dans d'autres pays, en fait, hein, mais particulièrement en France, Robin des Bois va être considéré comme un personnage très associé à la gauche, en fait, hein, donc, ce qui fait que, par exemple, dans les années 1960, hein, même si, encore une fois, hein, Robin des Bois, vraiment, pendant très longtemps, à part Augustin Thierry, on n'en parle pas beaucoup, on va le redécouvrir, notamment grâce au cinéma américain, donc notamment grâce au grand film de Douglas Fairbanks de 1922, et puis après par le film de 1938, donc d'Errol Flynn. Mais en fait, c'est assez marrant, en fait, de voir que après-guerre, en France, ce personnage-là va vraiment être associé, en fait, hein, donc Robin des Bois va vraiment être associé à un discours de gauche, ce qui fait que dans les années 60, ça va devenir un des personnages phares. De Vaillant, hein, qui est un journal pour enfants, un journal pour la jeunesse, de bande dessinée, mais qui est associé évidemment au Parti communiste, hein. Vaillant, c'est ce qui va devenir après Pif Gadget, hein. Et donc il va y avoir pendant des années une bande dessinée Robin des Bois.
D'ailleurs, on en a un peu parlé à l'instant, mais donc dans ce livre, là, Robin des Bois de Sherwood à Hollywood, qui est disponible aux éditions Libertalia, effectivement, dans l'imaginaire collectif, Robin des Bois, c'est le valeureux bandit au grand cœur qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Et pourtant, c'est abordé aussi, mais selon les sensibilités des historiens et le contexte dans lequel ils ont travaillé, Robin, en fait, peut être différent. À un moment, même, il y a un oxymore qui est employé, que j'aime beaucoup, qui est la menace héroïque.
Ouais. Le truc, c'est que Alors Robin des Bois, en fait, de toute façon, c'est comme tous les mythes, hein, ça se vérifie avec le mythe arthurien, ça se vérifie aussi avec des personnages de super-héros, en fait, hein, voilà. Donc, en fonction des auteurs ou des autrices qui vont s'en emparer, et ben on va le tirer à gauche ou à droite en fait, hein, donc ou au centre en fait, hein, donc et donc concrètement il va y avoir très tôt dès le 16e siècle en fait, hein, il va y avoir des versions, on va dire, plus conservatrices de Romain des Bois. Par exemple, l'exemple il est frappant, au 15e siècle, Romain des Bois, il est décrit comme un, dans les premières ballades, hein, il est décrit comme un yéomane. Donc en fait, c'est un yéoman, c'est un membre du peuple en fait, hein, mais c'est plutôt un membre aisé, un petit propriétaire terrien en fait, hein, donc, mais c'est quand même quelqu'un issu des classes populaires. Et puis après, donc à partir du 16e siècle, on va des auteurs, notamment des auteurs liés, des auteurs, des dramaturges liés à la cour, anglaise, hein, notamment à la cour d'Élisabeth Ière, en fait, hein, donc vont transformer le mythe, ils vont faire de Romain des Bois non pas un yeoman, mais un noble. Le comte de Huntingdon, et ils vont dire en fait que ce noble, son but, c'est pas en effet de prendre aux riches pour donner aux pauvres, parce que c'est, pour le coup, ça existe vraiment dans les premières ballades, mais c'est de remettre donc le roi Richard Cœur de Lion sur le trône pour virer en fait, hein, le méchant prince Jean en fait, hein. Et donc là, tu vois, il y a une transformation importante du mythe, parce que là, Romain des Bois, c'est plus un bandit social, quelque part, mais c'est une espèce d'aristocrate légitimiste, quoi, en fait, hein, donc, qui se bat pour un roi, quoi. Et donc, évidemment, ça change complètement la signification, du mythe, quoi.
Alors, de toute façon, c'est un mythe qui a, tu l'as dit, hein, comme tous les mythes, hein, dont les exploits ont été vantés, alors qui a évolué, qui est le fruit de nombreux cheminements et dont les exploits ont été vantés par l'oralité, la chanson, le théâtre, le cinéma, tu l'as dit, par l'écrit. On serait plus aujourd'hui à dire que, en fait, bon, il y a la version de Peacock, mais la version de Walter Scott presque qui serait dominante, en fait, dans l'inconscient collectif.
Bah oui, parce que alors Walter Scott, c'est un cas qui est intéressant, parce que justement, parce que son Romain des Bois apparaît donc dans Ivanhoé, hein, donc dans le roman hyper célèbre, donc de 1819, hein, donc qui va être adapté plein de fois, enfin qui va être adapté au cinéma, à la télévision et tout. Et c'est intéressant parce que Walter Scott, il écrit après Ritson, donc c'est un Anglais, voilà, proche des milieux révolutionnaires qui admire la Révolution française. Ritson, il publie les ballades en 1795. Voilà, il publie les ballades de Romain des Bois à cette époque-là. Et il dit, voilà, Romain est un révolutionnaire. Et Walter Scott, lui, c'est tout l'inverse, hein, c'est un conservateur, voilà, vraiment très, très, voilà, très réactionnaire, quoi, en fait, hein, en plus d'être un grand écrivain. Et concrètement, il fait exactement ce qu'ont fait les dramaturges du 16e siècle, c'est que quand on regarde bien son roman, le véritable héros, celui qui va quelque part remettre le roi Richard sur le trône, c'est plus Romain des Bois, qui devient en fait un personnage secondaire, hein, donc qui est pour le coup un homme du peuple et tout, mais c'est un personnage secondaire, c'est le bon chevalier Ivanhoé. Donc tu vois, en fait, encore une fois, il y a une espèce de transformation du mythe, hein, dans le sens où Romain des Bois, il va être mis en retrait, il apparaît, hein, donc il soutient Ivanhoé, il aide Ivanhoé, mais c'est tout. C'est quelque part un second rôle dans la version de Walter Scott, et plus le premier rôle comme pouvait le penser Ritson ou d'autres avant lui, quoi. Et donc voilà, et puis évidemment, le fait est que Walter Scott, vu l'énorme succès qu'a eu dès le début en fait à Ivanhoé, qui va très rapidement être traduit, et ben concrètement, ça va aussi participer à la popularité, hein, de Romain des Bois. Ce qui fait, en fait, s'il n'y avait pas eu Ivanhoé, Augustin Thierry, en fait, hein, parce qu'Ivanhoé est très rapidement traduit en français, Augustin Thierry n'aurait pas écrit son passage sur Romain des Bois, quoi.
Thank you.
Vous écoutez William Blanc, co-auteur de Robin des Bois de Sherwood à Hollywood, paru aux éditions Libertalia, au micro de Culture Prohibée. Aujourd'hui, on peut le dire, bon, il y a eu le film de Richard Thorpe, tout ça, mais enfin, le personnage d'Ivan Noé, il a un peu été oublié, aujourd'hui, hein, je parle vraiment de nos jours, alors que le personnage de Robin des Bois, enfin, ça continue, là, le film avec Kevin Costner, il vient de ressortir, le personnage de Robin des Bois, lui, il continue, il y a Ridley Scott qui a fait une version, il continue d'enchanter les petits et grands, si j'ose dire.
Ouais, parce que bon, bah, concrètement, Robin des Bois, il y a tellement de versions qui ont été faites sur le mythe de Robin des Bois que c'est un personnage beaucoup plus plastique que et quelque part beaucoup plus plaisant aussi, hein, donc que le personnage d'Ivan Noé, parce que c'est en effet, on peut en faire une figure, voilà. Très contestataire, tout comme on peut en faire aussi une figure aussi très conservatrice, quoi. Donc ça plaît à plein de trucs. Et peut-être c'est intéressant parce que dans le bouquin, nous on travaillait aussi non seulement sur des usages, sur des emplois littéraires, artistiques de Robin des Bois, donc des adaptations en bande dessinée, donc comme tu l'as dit au cinéma, mais aussi il y a plein d'usages, des usages en fait quotidiens. Politique. Robin des Bois, il est beaucoup employé dans la caricature, notamment pour critiquer évidemment les plus riches et ceux dès le 19e siècle, mais il est aussi employé par des groupes politiques, par des militants, et ça ça arrive très tôt, hein. Ça arrive dans l'Angleterre au 19e siècle, hein. Il y a notamment les chartistes, hein, qui sont un gros mouvement populaire des années 1830-1840, hein, qui vont se réclamer de Robin des Bois, qui vont le citer comme exemple, hein, les chartistes qui réclamaient notamment le droit de vote, le suffrage universel, notamment masculin en fait à l'époque, hein, en Angleterre. Et puis plus près de nous, en fait, hein, il va y avoir plein d'usages dans les manifs, en fait, hein, ça on a repéré même par exemple dans les manifs des retraites, certaines manifs des retraites de 2023, il y avait des gens qui avaient des banderoles à l'effigie de Robin des Bois, il y a aussi la France Insoumise ou François Ruffin qui en ont parlé et tout, notamment qui ont ressorti un vieux motif du 19e siècle, hein, ce qu'on appelle le Robin des Bois à l'envers. Donc en disant en gros les gens qui accaparent les richesses pour eux c'est des Robin des Bois à l'envers, hein, et donc évidemment ils l'ont employé, Ruffin notamment dans Fakir l'a employé contre Emmanuel Macron, et puis dans des usages même qui datent il y a plus de 20 ans déjà, en fait, hein, il y a par exemple des sections syndicales CGT Énergie, hein, qui vont faire des opérations Robin des Bois, en fait, en remettant de l'électricité gratuitement pendant des mouvements de grève, en fait, hein, ils vont aller remettre de l'électricité gratuitement à des usagers, hein, qui étaient privés d'électricité parce qu'ils pouvaient plus payer. Donc tu vois, en fait, c'est assez, je pense que ça, évidemment, on peut pas faire des opérations Ivan Noé. En fait, en plus, ça parlerait pas à grand monde, quoi, en fait, hein, alors que Robin des Bois, il y a eu tellement de films autour de Robin des Bois, et même des séries, en fait, hein, des bandes dessinées, des romans jeunesse aussi, et même en fait, hein, c'est même marrant, en fait, on pourrait même penser à d'autres choses, parce que il y a même des bandits, des vrais bandits, en fait, qui ont été comparés à Robin des Bois dès le 19e siècle, hein, aux États-Unis par exemple, avec le cas de Jesse James, avec par exemple aussi en Mexique Pancho Villa, c'est un révolutionnaire, en fait, hein, mais aussi en France dans les années 70, il y avait Mesrine qui était comparé à Robin des Bois, donc ce qui fait que c'est devenu quelque chose de très très présent, et donc en fin de compte c'est facile, en fait, hein, c'est devenu une espèce de réflexe, hein, dès qu'il est question de partage de richesses à gauche ou de lutte contre l'impôt à droite, en fait, hein, parce que c'est aussi ça, en fait, hein, on ressort Robin des Bois. C'est quelque chose qui devient, en fait, hein, qui est devenu très courant.
Je précise aux auditrices et auditeurs que
tout ce qu'on se dit là, hein, c'est dans le bouquin, hein, tout ça est développé. Il y a même, alors moi j'ai découvert dans le bouquin un truc, hein, donc le bouquin Robin des Bois de Sherwood à Hollywood, là, que tu co-signes William Blanc avec Justine Breton et Jonathan Fruoco, qui est disponible aux éditions Libertalia, j'ai découvert l'existence dès 1750 de la Robin Hood Society, la RHS. Tu peux nous en dire plus aussi sur cette société qui était quelque part une sorte de société parallèle, secrète?
Ah, c'est pas vraiment une société secrète, c'était une société de débat en fait. C'était une espèce de société de débat démocratique dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. On est à l'époque des Lumières, on aime beaucoup parler, on aime beaucoup parler politique, on aime beaucoup. Donc c'est un moment d'ouverture en fait, hein, donc de la parole. Hein, donc en effet, il y a des sociétés de débat, souvent dans des milieux urbains, souvent populaires. Alors peut-être populaires. Populaire un peu aisé, enfin voilà, petite bourgeoisie, donc artisanat, enfin voilà, donc il y a des sociétés de débat comme ça qui se forment, et on parle, voilà, on parle politique, on parle des affaires courantes, et donc en effet cette société là porte le nom de Robin des Bois, et c'est évidemment pas un hasard, quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est que frappant, c'est que il va y avoir des caricatures contre ces sociétés là venant de la haute société, parce que aussi Robin des Bois, ça peut servir en fait, hein, donc même si c'est moins le cas aujourd'hui, mais à l'époque ça peut aussi servir d'insulte, hein, en disant en gros ces gens-là c'est des Robin des Bois, donc en gros c'est des moins que rien, c'est des brigands, c'est des bandits, donc on emploie parfois des Robin des Bois comme une espèce de synonyme de pirate, quoi, en fait, en disant voilà, ces gens-là c'est pas des gens fréquentables, donc voilà c'est là-dessus c'est assez frappant, et d'ailleurs ces caricatures on les a mis elles sont visibles dans le cahier iconographique, hein, du bouquin. On voit ces caricatures du milieu du XVIIIe siècle, hein, qui se moquent justement de ces sociétés Robin des Bois. Et en sachant qu'en même temps, au même moment, tu vas avoir plein de en Angleterre, hein, dans les pays anglophones, hein, tu vas avoir plein de petits bouquins, des bouquins faciles d'accès, hein, donc espèce de feuilles de chou pas très chères en fait, hein, qui racontant telle aventure de Robin, etc. et tout, de manière très courte. Hein, et ça, c'est des choses qui étaient diffusées à l'époque. Donc on a aussi, au même moment, déjà, un emploi politique de Robin des Bois, une caricature contre Robin des Bois, en fait, ou un usage en fait inverse pour se moquer des gens qui se réclament de Robin des Bois, et en même temps, donc, une littérature populaire qui existe, hein, sur l'archi de Sherwood.
Et d'ailleurs, quand tu as une idée en tête, tu ne l'as pas ailleurs, mon cher William. Et je rappelle à nos auditrices et auditeurs de Culture Prohibée qu'on avait ouvert cette saison avec une émission sur l'utopiste britannique William Morris. Hein, en fait, tu reviens, toi, sur William Morris, parce qu'il y a un gros travail des éditions Libertalia et aux Forges de Vulcain qui republient, qui retraduisent William Morris. On en avait longuement parlé dans l'émission, on en reparlera certainement à l'avenir. Et tu expliques, toi, que c'est l'un des rares à avoir mis en avant à son époque une vision progressiste de Robin des Bois.
Ouais, alors en effet, parce que à l'époque, Morris, quand il écrit un texte qui s'appelle Un rêve de John Ball, où en fait il se met en scène, hein, c'est dans les années 1880, il se met en scène en train de revenir au XIVe siècle et d'assister à une grande révolte qui a vraiment existé, donc la révolte des paysans, donc de 1381, et il se met en scène en train d'assister à cette révolte en fait, hein, voilà. Et dans cette révolte, en effet, les gens parlent de Robin des Bois, qui chantent les chansons de Robin des Bois, quoi. Et en fin de compte, Morris, on comprend en fait qu'il a lu Ritson et qu'il se met dans un quelque part dans sa, il se place dans la même idée que Ritson, sauf que lui, Morris, il va beaucoup plus loin. Pour lui, Robin des Bois, ça annonce déjà le socialisme en fait, en gros, avec l'idée de partage des richesses, de prendre aux riches et de redistribuer les richesses pour les plus pauvres, hein. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi même dans certains films en fait, hein, cette idée là en fait, hein, donc de manière peut-être beaucoup plus beaucoup moins militante en fait, hein, mais par exemple je pense évidemment au film de 1938, hein, donc le film avec Errol Flynn, hein, de Michael Curtis. C'est un film qui s'inscrit dans le contexte du New Deal, hein, dans le contexte de la crise de 1929 aux États-Unis, et il y a vraiment cette idée qui est très présente, hein, que concrètement les riches doivent donner en fait, hein, donc parce que les pauvres sont vraiment très pauvres à l'époque, et donc il faut les aider, quoi, en fait. Hein, donc, et Robin, il incarne un peu cette l'idée que voilà, il incarne un peu l'idée que bah, et c'est important de redistribuer au moins une partie des richesses, quoi, en fait. Hein, donc,
D'ailleurs, Robin des Bois, enfin la version de Curtis, moi je l'aime beaucoup. Hein, vient de ressortir, en Blu-ray d'ailleurs dans une édition. Il n'existait pas en Blu-ray ce film, et il vient de sortir en Blu-ray dans une édition collector, enfin pas collector, mais exclusivité Fnac, parce que la Fnac fait un partenariat avec la Warner pour sortir des films en exclus qui sont jamais sortis en Blu-ray. Il est dedans, donc j'encourage les auditrices et auditeurs.
C'est très bien, tu me l'apprends, parce qu'en plus, bon, pour moi, c'est clair, bon, peut-être, je pense pour beaucoup de gens, en fait, hein, c'est le film archétypal de Robin des Bois. C'est peut-être, voilà, c'est celui qui a codifié un peu la vision qu'on a de Robin des Bois, même si, en fait, voilà, il y en a eu d'autres avant, notamment celui de Fairbanks, en fait, hein, mais ouais, c'est un film qui est très important, et comme tu dis, en plus, tu remarques bien, c'est la Warner qui l'a fait. Il y a aussi un autre sous-texte dans ce film-là, c'est qu'à l'époque, la Warner, notamment, via Jack Warner, en fait, hein, est une société qui est engagée contre le nazisme, en fait. Hein, donc, Jack Warner a beau être républicain, en fait, hein, il ne supporte pas les nazis, et donc, bah, notamment, en fait, voilà, donc c'est notamment lui, enfin, en tout cas, c'est la Warner qui va aider le compositeur, en fait, de la musique du film, hein, donc Korngold, à fuir l'Autriche, hein, Korngold qui est juif, en fait, hein, donc à fuir l'Autriche, hein, donc à fuir l'Anschluss nazi, pour venir donc faire la musique, hein. Et puis Michael Curtis lui-même était juif, en fait, hein, donc voilà, donc il y a quand même un aspect qui est très important, et ça se retrouve aussi dans le Robin des Bois, à travers notamment la vision, voilà, quand Robin dit, voilà, que les hommes du prince Jean, je cite de tête, hein, ils torturent, hein, tout va, etc., et tout, voilà, donc il y a vraiment une allusion très nette à ça, à la montée du nazisme, en fait.
Et aussi, plus tard, moi, j'ai un film que j'aime beaucoup, hein, même s'il est un peu... Enfin, il est différent, puisque c'est la fin d'un mythe, c'est la fin des idéaux, mais c'est La Rose et la Flèche, de Richard Lester, dont on a déjà parlé dans l'émission, qui est un film aussi très marquant qui sont pour moi, avec le film de Michael Curtis avec Errol Flynn, pour moi, les deux films les plus marquants... ce serait cela, ce Robin des Bois.
Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi, parce que en plus les deux films se répondent, en fait. En tout cas celui de Lester répond à celui de 38, hein, c'est que parce qu'il va y avoir pas mal de Robin des Bois après le film de 38, hein, qui sont en fait souvent des copies, en fait, ou en tout cas des clairement des imitations, des variations, alors que le film de Lester, bah, en effet, c'est un Robin des Bois vieux. En plus, il y a l'idée, depuis le film de 22, depuis le film avec Fairbanks, il y a l'idée que Robin des Bois, c'est une espèce d'acrobate qui va de broche en branche. Et ça, c'est vraiment l'idée que, bah, on est dans l'image même de la jeunesse américaine. En fait, en gros, on est après la Première Guerre mondiale, et bah, concrètement, le corps des hommes américains, il est vaillant, il est fort, il a survécu à la guerre, en fait, ça n'a pas coûté très cher aux États-Unis, alors que le corps des Européens, il est blessé, il est torturé, enfin voilà, il est sorti blessé, épuisé par la guerre. Il y a vraiment cette idée que l'Amérique, c'est Robin, là, dans le film de Fairbanks et dans le film de Errol Flynn, il incarne l'Amérique jeune, quoi, en fait, en pleine de vie, etc. et tout. Voilà, quoi. Donc, encore plus même dans le film de Fairbanks, hein, je pense. Hein. Et en fait, là, dans le film de Lester, hein, donc, où Robin est joué par Sean Connery, là, c'est l'exact opposé, quoi, en fait. Hein, c'est un Robin vieux qui arrive évidemment plus à faire d'acrobatie. Il y a une scène qui est très drôle et en même temps très triste. En fait, on voit Robin et Petit Jean essayer de s'échapper c'est au tout début, alors je ne spoil pas, hein, essayer de s'échapper du cachot, et ils n'y arrivent pas parce que concrètement, bah, ça... la fenêtre est trop haute, donc ils n'arrivent même pas à monter, enfin, voilà, donc c'est assez drôle, quoi. Et puis il y a clairement, en fait, c'est des hommes vieux qui reviennent de la guerre et qui sont épuisés par la guerre, quoi, en fait, hein, et qui disent on a marre de la guerre, mais qui vont quand même y replonger, quoi, en fait, malgré eux, en tout cas dans des combats. Et évidemment, c'est une allusion très nette à l'Amérique après le Vietnam, quoi, en fait, hein, qui est épuisé par ça, quoi. Donc oui, c'est un très très beau film, et puis en plus c'est un film qui fait aussi miroir aussi, à mon avis, au western spaghetti, quoi, en fait, hein, donc à la fin d'Hollywood, à la fin du Middle West, en fait, hein.
Non, on est d'accord.
Voilà. C'est étonnant.
Ah, c'est étonnant. Dès qu'on parle cinéma, on arrive toujours à tomber d'accord. C'est... Non, après, il y a aussi... Alors, ça va être la dernière question, parce qu'on va être pris par le temps, mais le livre aussi s'intéresse à des thématiques. Donc, le livre, je le rappelle, hein, c'est Robin des Bois de Sherwood à Hollywood, que tu co-signes William Blanc avec Justine Breton et Jonathan Fruoco. Et il aborde aussi... Alors, il parle de la place des femmes, parce que tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu as parlé de Marianne, qui n'est pas arrivée tout de suite, qui est un personnage qui s'est greffé ensuite, mais qui a apparu dans les évolutions du mythe, et puis l'importance aussi de thématiques qui vont peut-être plus parler à notre époque, c'est-à-dire le travestissement, la notion de genre, enfin vous abordez tous ces sujets-là aussi dans le livre, qui font que le mythe de Robin des Bois, en fin de compte, c'est un mythe d'une richesse presque infinie, quoi.
Ouais, alors là, c'est en effet, c'est des parties qui ont été écrites par Justine Breton, en fait, hein, donc, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et qui sont foncièrement passionnantes, parce que, bon, déjà, évidemment, il y a la version du mytho féminin, hein, et comme ça, en lisant les pages, vous pourrez apprendre ce que c'est que le syndrome de la Schtroumpfette, hein, voilà, donc ça, c'était important, parce que Marianne, en fait, hein, c'est comme la Schtroumpfette, hein, son rôle pendant très longtemps, ça va être d'être la fille. Voilà, c'est pas d'être le grand balèze comme Petit Jean, le gros rigolo donc comme le frère Toc, ça va être d'être la fille, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir ça, même si évidemment il y a parfois des petits éclairs, voilà, où on voit Marianne sortir du lot, mais c'est jusqu'à une date récente, c'est assez rare. Et puis la notion de travestissement, ça c'est, je pense que c'est encore plus intéressant, parce que le fait que Robin se déguise en femme, c'est très ancien, on l'a déjà dans des textes médiévaux, mais il y a vraiment cette idée-là, en fait, derrière le travestissement, il y a l'idée du carnaval, en fait. Hein, donc le carnaval, hein, donc, c'est, dès le Moyen-Âge, en fait, une fête, non seulement une fête, mais aussi un rite d'inversion, où en fait les règles, l'ordre social est complètement renversé. Évidemment, donc les pauvres deviennent riches, et puis inversement, les riches deviennent pauvres, quoi. Et ça, dans Robin, il y a constamment ça. Mais vu qu'en fait, dans le carnaval, on change d'identité, on se déguise, et ben évidemment, Robin des Bois, il est complètement là-dedans. Il y a vraiment aussi cette idée de... il se déguise, hein, donc il met une capuche, hein, parce que le terme Robin Hood en anglais, c'est Robin la capuche, en fait. Donc il met une capuche pour cacher son visage, il se déguise, il change d'apparence, et donc... il y a vraiment cette idée que bah, Robin, ça devient, voilà, il change d'apparence, et donc aussi de sexe, en fait, hein, de genre, en fait, hein, donc, et c'est le cas aussi, on a même ça dans le film de Disney, d'ailleurs, au passage, hein, Robin des Bois et Petit Jean se déguisent en diseuse de bonne aventure, quoi, donc c'est très profondément ancré, et quand on regarde bien ça, avec les outils, en fait, hein, donc, les outils contemporains, on est vraiment frappé de voir, en fait, que bah, concrètement, Robin, c'est un personnage assez, on dirait aujourd'hui, un peu fluide, quoi, en fait, hein, voilà, où il peut changer, voilà, d'apparence, il peut changer, voilà, donc, d'attitude. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, dans ces transformations, il y a évidemment une signification politique sociale qui est très forte, hein, et ça, encore une fois, dès le Moyen-Âge.
Avant de vous quitter, je vous rappelle que Robin des Bois de Sherwood à Hollywood est signé William Blanc, Justine Breton et Jonathan Fruoco et est disponible aux éditions Libertalia. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine.